Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Comme régulièrement chaque semaine, je vous emmène aujourd'hui en voyage. En Irak, exactement, où se déroule la fiction de la jeune écrivaine et photographe Emilienne Malfatto, auteure du livre intitulé « Que sur toi se lamente le tigre », déjà récompensée à deux reprises par le Goncourt du premier roman et par le prix hors concours des lycéens. Des distinctions qui honorent aussi le travail de sa maison d'édition Elizade, fondée et dirigée à Tunis par Elisabeth Daldoul. Il est vrai que ce texte est remarquable puisqu'il raconte comment sur le bord du Tigre, une famille se trouve confrontée au crime d'honneur. Ainsi, au plus profond de leur intimité, s'expriment tous les acteurs de la tragédie, de la future victime, enceinte, hors mariage, à son bourreau, son frère aîné. Dans un instant, Emilienne Malfatto nous racontera la genèse de l'écriture de son livre, mais pour commencer, elle nous en lit un extrait des plus saisissants.
Je suis le frère, celui par qui la mort arrive. Je suis l'homme de la famille, l'aîné, le dépositaire de l'autorité masculine, la seule qui vaille, qui ait jamais valu. Je suis le frère qui a pris le rôle du père. Je règne sur les femmes. Je suis l'assassin. Je vais tuer tout à l'heure et je l'ignore encore. Que ferais-je si je le savais? Ferais-je demi-tour dans l'allée poussiéreuse? Je vais tuer tout à l'heure et je penserai que je n'ai pas le choix, sa vie ou notre honneur à tous. Ce n'est pas moi qui tuerai, mais la rue, le quartier, la ville, le pays. Tout à l'heure, je tuerai pour la première fois. Les morts de la guerre ne comptent pas. Ils n'ont pas de nom, pas de visage. Leurs morts sont nos vivants, nos victoires. J'ai appris cela à la guerre et bien d'autres choses encore. Les mains qui tremblent après le combat. La peur si profonde, glaçante, qui paralyse ou qui rend fou, qui parfois exalte jusqu'à un orgasme de feu. Cela se croit invincible et meurt l'instant d'après. J'ai appris le froid, le chaud, la saleté et la pestilence. Les rats et les chiens et les chats rendus déments par les bruits de la guerre et la viande humaine. Le ventre en griffes de fer. L'urine le long des jambes que tout le monde tait. Le sifflement du missile et la surdité ouateuse qui suit l'explosion. Les rires trop forts pour être vrais. La solidarité des armes et la pensée qui vient quand on entend l'avion. Qu'il bombarde n'importe où mais pas ici. Nous nous disons frères, mais jamais notre solitude n'a été plus grande. Qu'ils meurent tous si moi je survis.
Bonjour Emilienne Malfatto.
Bonjour.
Entre deux voyages, deux reportages, vous voici quelques jours à Paris, ce qui nous donne le plaisir de vous recevoir ici à RFI pour parler de ce livre intitulé « Que sur toi se lamente le tigre » aux éditions Elizade, qui en 79 pages dense et douloureuse raconte comment en un jour, dans une maison, se conçoit un acte inhumain. Trois unités de lieu, de temps et d'action qui rendent bien compte de la tragédie qui se joue ici, à savoir le mécanisme d'un assassinat annoncé. Nous sommes en Irak, il s'agit d'une jeune fille, enceinte sans avoir eu le temps de se marier puisque son fiancé est mort à la guerre, mais qui sait que son destin est scellé, sa condamnation, et qui plus est de la main de son propre frère. Avant d'entrer avec vous plus particulièrement dans cette histoire, Emilienne Malfatto, est-ce que vous voulez bien nous dire quel est votre lien avec l'Irak ?
Alors l'Irak, c'est un pays où je travaille depuis 5 ou 6 ans, ça commence à faire longtemps. J'y suis arrivée au départ par hasard, parce que je travaillais à l'AFP, à l'agence France Presse.
Comme journaliste.
Comme journaliste, exactement. Et j'étais au bureau Moyen-Orient, qui donc est situé à Chypre. Et je suis arrivée au bureau de Nicosie en mai 2014. Donc juste avant, en fait, la grande offensive de l'État islamique, la proclamation du califat, enfin voilà, tout cet été un petit peu surréaliste au Moyen-Orient. Et il se trouve que donc l'AFP envoyait en fait des renforts sur le terrain pour répondre aux besoins accrus en fait de couverture de l'actualité de la guerre contre l'État islamique. Et mon chef de l'époque m'a donné l'opportunité d'y aller, ce dont je lui suis d'ailleurs toujours reconnaissante, parce que j'étais la dernière arrivée sur le desk, j'avais 24 ans, j'étais en CDD, enfin je veux dire, il m'a donné cette chance-là, et j'ai eu un coup de cœur pour l'Irak. C'est assez fascinant comme pays.
Vous étiez où exactement? À Bagdad
même? Non, j'étais dans le nord, j'étais au Kurdistan. Et en fait, de ce coup de cœur est née une espèce de passion, d'attirance en tout cas pour l'Irak. Et quand mon CDD a pris fin à l'AFP, je me suis installée comme freelance, donc dans le nord de l'Irak.
Vous y êtes restée?
Voilà, j'y ai vécu dans le sens d'avoir un appartement, d'y être vraiment basée en permanence. En 2015 et puis en 2016, j'ai dû y vivre à peu près 18 mois, quelque chose comme ça.
Donc ça veut dire en effet, Emiliane Malfatto, que vous connaissez très très bien cette société dans laquelle vous vous êtes immergée plusieurs années. Vous y avez des amis et aussi vous connaissez les rituels, la culture, dont ce principe qui condamne les femmes. Quand, hors mariage, elle tombe enceinte.
Alors, je voudrais juste un petit ajout en préambule, parce que j'ai tendance à faire le disque rayé en ce moment avec ça, mais ça me paraît très très important de le signaler vraiment avant toute chose, c'est que le crime d'honneur, dont il est question donc dans le roman, n'est en aucun cas l'apanage de l'Irak, n'est en aucun cas l'apanage du monde arabe, du monde musulman, du Moyen-Orient, ni quoi que ce soit. Ça me paraît juste très très important de le préciser. Puisque donc il se trouve que moi j'ai situé cette fiction dans l'Irak conservateur rural parce que c'est la région que je connais et où je travaille, mais ça aurait pu être situé tout à fait autre part. Et voilà, des féminicides, ils sont produits partout, ils sont produits en France. La notion de crime d'honneur existait dans le code pénal italien jusqu'en 1981, c'est quand même très très proche. Donc voilà, moi je fais le disque rayé, mais c'est très important de le préciser pour moi.
Mais vous avez en effet absolument raison de dire que, hélas, c'est répandu depuis longtemps et partout. En l'occurrence, ici, ça s'incarne dans une région que vous connaissez bien. Donc est-ce que ça veut dire pour autant qu'il y a eu un élément déclencheur pour écrire cette histoire qui se passe dans cet Irak contemporain ?
Alors oui, il y a eu un élément déclencheur. Ça a été une conversation avec un ami qui est un ami très proche du sud de l'Irak, irakien, ouais, qui vit dans une zone conservatrice et rurale du sud de l'Irak et que je connais depuis plusieurs années, et avec qui on est suffisamment proche pour pouvoir avoir des discussions sur à peu près tout à bâton rompu. Donc je ne sais plus de quoi on parlait. Peut-être de la condition de la femme, je ne sais plus. Et il se trouve qu'il a un certain nombre de frères et sœurs, parce que les familles sont parfois nombreuses. Et je lui ai posé une question concernant sa plus jeune sœur, qui à l'époque n'était pas mariée, et qui est absolument ravissante, pleine de vie, enfin voilà. Et je lui ai dit, mais que se passerait-il si ta plus jeune sœur se retrouvait enceinte alors qu'elle n'est pas mariée? Et là, il s'est tourné vers moi, et il m'a regardé très calmement. Et il m'a dit, eh bien, l'un d'entre nous sera obligé de la tuer. Et il m'a dit ça, en fait, un peu avec l'air de dire, mais c'est malheureux, c'est terrible, mais c'est comme ça. Et la conversation, je crois, n'est pas allée tellement plus loin. Je pense que j'ai un peu avalé l'information.
Mais vous étiez sans doute choquée, surtout.
Ben, disons que c'était, tout d'un coup, c'était mon ami, là, avec qui on discute, avec qui il n'y a pas de barrière, et qui, tout d'un coup, en fait, me disait ça de façon extrêmement froide. Et ça a marqué quelque chose, quoi. Oui, il y a une forme de... Oui, il y a une forme de choc, en fait. Je me suis dit, ah oui, quoi. Je veux dire, il me le dit, ok. Après, toute la question est de savoir aussi si confronté, si ça se produisait vraiment, qu'est-ce qui serait passé? Je n'ai pas la réponse, parce que cette jeune fille ne s'est pas retrouvée enceinte hors mariage. Mais c'est aussi toute la question. Qu'est-ce qui serait vraiment produit si c'était arrivé? Mais voilà, c'est cette conversation, je pense, qui a planté, en fait, la première graine qui a conduit, quelques semaines, mois plus tard, à la rédaction du livre.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous êtes journaliste de formation. Mais vous n'écrivez pas un article, vous décidez de prendre la fiction à bras-le-corps. Est-ce que c'est parce que vous avez senti, Emiliane Malfatto, que justement la littérature vous permettait de dire ce que vos personnages ressentent intérieurement et ce qu'ils ne diraient jamais publiquement, à haute voix, et peut-être encore moins à une journaliste femme occidentale?
pour rebondir sur la dernière partie de votre question, en fait, justement, je pense parce que je suis une étrangère et une femme, mais qu'en même temps je parle arabe et que je connais suffisamment bien les codes pour être proche, je me suis retrouvée un nombre incalculable de fois à avoir des discussions complètement ubuesques avec des hommes ou des femmes, rarement les deux ensemble, mais autant avec les uns qu'avec les autres, sur des questions de société, des questions de sexualité. Enfin, c'est assez incroyable le moment où la pudeur tombe. Et là, vous pouvez avoir des conversations, mais qui sont un petit peu surréalistes, quoi. Dans le tout d'un coup, vous vous dites, mais on est vraiment en train de parler de sexualité là avec. Dans ce contexte-là. Et donc, c'est souvent très amusant, en fait, de se rendre compte à quel point, justement, il y a des questions, il y a de la curiosité, il y a un intérêt, il y a des échanges. Mais concernant, plus précisément, le fait que je sois allée, en fait, vers la fiction, ça n'était pas du tout réfléchi. Ça n'était pas du tout décidé ni prévu. En fait, l'idée d'écrire cette histoire, c'est un petit peu imposé à moi, mais de façon vraiment très, très impulsive. Et il fallait que je l'écrive, c'est-à-dire que tout d'un coup, je me suis dit, mais il faut écrire cette histoire. Et dès le départ, je savais vraiment ce que j'allais dire, je savais comment ça finirait, je savais les passages que je voulais intercaler de l'épopée de Gilgamesh. Enfin, j'avais en tête
le dispositif.
Voilà, vraiment le dispositif. Et l'écriture a été extrêmement rapide et extrêmement intuitive. Moi, j'avais la sensation que c'était comme si l'histoire était déjà écrite et que je n'étais en fait que la greffière. Et donc, c'était assez incroyable parce que j'avais jamais écrit de fiction avant. Je ne faisais pas partie de ces gens qui disaient, moi, je vais écrire un roman. Enfin, vraiment, c'était pas prévu au programme. Et donc, la sensation de pas du tout contrôler le processus, en fait.
Et ce dispositif est d'autant plus remarquable qu'en effet, vous donnez donc la parole à chacun des membres de la famille, de la victime. D'ailleurs, est-ce qu'elle a un nom et un prénom ? Il me semble qu'à la lecture, c'est quelque chose qui a été escamoté.
Alors, elle n'en a pas. Et pour moi non plus, elle n'en a pas. C'est-à-dire qu'elle n'en a jamais eu, en fait. Et dans ma tête, elle n'en a pas.
Et pourquoi ? Parce que ça pourrait être toutes les femmes ?
C'est une question qu'on me pose souvent. Et je pense que cette interprétation-là peut valoir. En tout cas, l'écriture était très intuitive. Et pour moi, elle n'en avait pas. Si vous voulez, c'est pas qu'elle en a un et que je ne veux pas le dire pour X ou Y raison. C'est vraiment, elle n'en a pas, et moi je l'ignore en fait. Elle n'en a jamais eu.
Les autres ont un prénom, et c'est ainsi qu'on fait la connaissance de la belle-sœur, parle également son fiancé mort, également sa mère, sa petite sœur, et puis les trois frères, dont Amir, celui qui va porter le coup fatal. Alors ce sont des monologues intérieurs qui témoignent à la fois effectivement de cette fatalité qui arrive, mais pas forcément d'une volonté pour certains. C'est-à-dire, on entend des voix plus modérées, comme si au plus profond d'eux-mêmes, ces personnages refusaient cette réalité, mais ne disent rien par lâcheté, par peur, par résignation. Et il m'a semblé presque aussi y voir une dramaturgie de l'ordre du procès. C'est-à-dire que vous donniez parole à tout le monde, à l'accusation et à la défense, comme si par la littérature vous mettiez de la justice là où il n'y en a pas.
Ah, c'est très intéressant. C'est la première fois qu'on me propose cette interprétation et je trouve ça très intéressant. Ça peut faire, oui, un peu la déposition, un peu le témoignage de chacun, y compris de l'assassin. Je trouve ça très intéressant, quoi, comme lecture possible des choses, parce que effectivement ils sont tous pris dans leur destin, ils sont tous emportés dans un flot, ils se débattent tous, et y compris par exemple l'assassin. Enfin, vous mentionniez donc Amir qui est le frère aîné, et moi Amir c'est un personnage que j'aime énormément et vraiment parce qu'il est parce que c'est un salaud, mais c'est pas qu'un salaud, en fait. Et c'est ça, justement, qui est intéressant, et c'est peut-être ça que permet la polyphonie. C'est de dire, on est dans quelque chose qui est peut-être moins manichéen, en tout cas, de dire, mais il n'y a pas une victime innocente et que des monstres autour. Non, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, en fait, on en arrive à les plaindre tous, y compris l'assassin. Et effectivement, il y a un peu de ça, quoi.
Et c'est une façon aussi de mettre en lumière cette zone grise qui, en effet, n'est ni le bien ni le mal. Mais voilà, c'est des années, des siècles de tradition, plus une situation extrêmement violente. L'Irak est un pays en guerre. Et cette violence, elle n'est pas seulement à l'extérieur, elle est aussi à l'intérieur des maisons. Et on ne sait pas forcément ce qui s'y passe dans ces maisons, d'ailleurs. Vous aviez envie de rentrer là où on ne va jamais ?
Oui, moi, c'est quelque chose que je trouve assez extraordinaire, en fait, dans moi, l'approche que j'ai de l'Irak, puisque, en fait, depuis plusieurs années, je développe ce qu'on appelle des projets personnels, notamment en photographie, qui sont un peu détachés de l'actualité. Et le fait de travailler au long cours, le fait de parler la langue, le fait aussi d'être une femme, parce qu'une femme a accès au monde intérieur, puisqu'elle ne représente pas une menace pour l'honneur des autres femmes, ça ouvre la porte d'un monde qu'en fait on ne voit pas. Et c'est ça qui est fascinant. Enfin, moi en tout cas, y compris dans ma pratique photographique, moi je pense que je suis une photographe de l'intime, et c'est ça qui m'intéresse en fait. Et voilà, c'était important, oui, pour moi de dire, on va aller voir ce qui se passe. Voilà, derrière les portes, derrière les voiles, derrière les fenêtres. Et je pense à certains de mes projets photographiques qui se déroulent justement dans les maisons, dans l'intime, au sein des familles. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me parle et qui, pour moi, fait sens, quoi.
Se lamente le tigre. C'est donc le titre de votre roman, Emilienne Malfatto. C'est également un vers, ouais, extrait de l'épopée de Gilgamesh, un des textes littéraires les plus anciens au monde. Est-ce que vous voulez bien nous dire ce que vous aimez dans cette légende qui parle d'un héros qui aurait vécu 3000 ans avant Jésus-Christ ?
Alors, l'épopée de Gilgamesh, je la trouve géniale à plusieurs niveaux. Déjà, il y a quelque chose de fabuleux de se dire. Les tablettes qu'on a retrouvées les plus anciennes sont, enfin, il y en a qui sont datées du 3e millénaire avant Jésus-Christ, tout ça. Donc, c'est pour quelqu'un comme moi qui aime l'histoire sumérienne et qui aime l'histoire babylonienne, il y a un attrait qui est certain. Et puis, en fait, quand on lit l'épopée de Gilgamesh, moi, la première fois que je l'ai lu, j'ai trouvé ça fabuleux parce qu'en fait, c'est extrêmement actuel. Enfin, grosso modo, Gilgamesh, donc c'est ce roi, ce prince d'Uruk, qui part à l'aventure avec son copain Enkidu. Et puis, à un moment, à la suite d'un certain nombre de péripéties, Enkidu meurt. Et là, Gilgamesh prend conscience de la mort. Et il fait, mais ce qui, moi, m'apparaît comme tout bêtement une grosse crise existentielle, où il se dit, mais oh là là, mon copain est mort, moi aussi, je vais mourir, on va tous mourir, à quoi ça sert ? Et je sais que moi, quand je l'ai lu, je me suis dit, mais bon sang, quoi, ça fait... C'est 3000, ça fait 3-4000 ans. Et en fait, c'est les mêmes questions. Ça n'a, enfin, rien n'a changé. Et c'est assez... Voilà, je sais qu'à l'époque, quand je l'avais lu, je m'étais dit, mais... Ah ouais, en fait, Gilgamesh, époque actuelle, c'est la même chose, c'est la même crise existentielle.
Même combat contre la mort.
Voilà, à peu près, quoi. Et comme, en plus, c'est un livre qui parle beaucoup de vie et de mort, voilà, pour moi, Gilgamesh a sa place, d'autant plus que, donc, c'est un texte babylonien. Et donc, il a sa place dans un récit qui se déroule en Irak.
Et que sur toi se lamente le tigre, évidemment, c'est le fleuve que vous faites parler, Emiliane Malfatto. Pourquoi ? Parce que c'est le seul personnage, entre guillemets, qui peut plaindre sincèrement votre victime ?
Alors, le tigre, dans ce récit, c'est un peu l'équivalent du cœur, je pense, des tragédies antiques. Il est là depuis le début, pareil. Je savais qu'il était là. Enfin, ça n'a pas été planifié, quoi. Il était là, et puis c'était comme ça. Et puis, il représente aussi un petit peu tout ce temps long, quoi, de l'histoire irakienne, tout ce qu'il y a eu avant, tout ce qu'il y aura après.
Alors, faire parler ceux et celles qui ne peuvent pas, c'est ce qu'on voit également sur la couverture de votre roman, où il y a trois personnages féminins, deux adultes et une enfant, couverte de noir, bien sûr, et qui à la fois rit et en même temps se cache la bouche avec les mains. Alors, c'est une photo que vous avez prise,
oui.
Emiliane Malfatto.
Puis, il y a la main de l'homme.
Et il y a une main de l'homme un peu sur la droite. On ne voit que sa main et une cigarette. Qu'est-ce qu'elle dit, cette image, pour vous ?
C'est une photo qui a été prise dans la maison d'un monsieur qui est en fait mon batelier dans les marais de Mésopotamie. Donc, c'est le propriétaire de la barque et on va ensemble dans les marais. Donc, ça fait un petit moment que je le connais. Et je me rappelle très bien, cette photo, elle a été prise en décembre 2016. J'étais malade comme un chien. J'avais attrapé une pneumonie dans les marais de Mésopotamie, pour tout vous dire. Et il m'avait invité à déjeuner chez lui, dans sa famille. Et il y avait, il y avait ses filles, ses belles-filles. Enfin, là, il y avait un certain nombre de personnes. C'est assez rare, en fait, en Irak, de pouvoir photographier des femmes adultes. D'abord, il faut qu'elles soient d'accord. Et puis, il faut aussi souvent avoir une autorisation masculine. Et là, en l'occurrence, l'homme de la maison avait donné son autorisation. Donc j'étais absolument ravie, quoi, de pouvoir faire cette photo. Et elle rit, elle se cache un peu. Je pense qu'il y avait ce phénomène de timidité aussi par rapport à l'objectif. Et on ne la voit pas sur la couverture, mais sur la photo originale, il y a la belle-fille de ce monsieur qui est située à droite de l'image, qui est accroupie, presque cachée par lui, et qui a comme ça le menton dans la main et qui regarde l'objectif, mais vraiment en face, et qui a un regard assez extraordinaire, en fait.
Pour vous, c'est une image de l'Irak ? Enfin, c'est une image qui résume assez bien l'Irak ?
Alors, c'est une des images de l'Irak, parce que l'Irak, bon, comme tous les pays, est plein de disparités, plein de nuances. Et ce qui est vrai, par exemple, dans ces régions donc rurales, ne l'est pas forcément à Bagdad. Voilà, vous avez des filles à Bagdad qui sont beaucoup plus libres. Enfin, voilà, l'Irak, c'est un petit peu comme une boule à facettes, en fait. Vous avez une telle réalité à tel endroit et vous pouvez en avoir une autre à un autre endroit. Enfin, c'est assez complexe. C'est pour ça aussi que c'est important aussi de pas dire voilà, ce livre a prétention à dire voilà la réalité de l'Irak, parce que ce n'est pas le cas, parce que voilà, l'Irak est plein de nuances, en fait.
Et en même temps, cette réalité, on le disait tout à l'heure, elle existe. Est-ce que vos amis irakiens, vos amis irakiennes pourrait comprendre ce roman qui dénonce la situation ?
Alors, je ne sais pas, parce que le livre n'étant pas traduit en arabe...
Partons du principe qu'il le serait et qu'il le lirait.
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a des gens qui le prendraient bien, d'autres qui le prendraient mal.
Par exemple, votre ami, qui justement, Ali, qui a déclenché cette conversation, comme vous nous le racontiez tout au début de cette émission, est-ce qu'il pourrait comprendre ?
Lui, il comprendrait. Lui, il comprendrait.
Il comprendrait tout en étant pour ce crime d'honneur.
Non, lui, il n'est pas pour. Lui, il n'est pas pour. L'ami dont vous parlez, il n'est pas pour. Il n'est pas pour. Mais je ne suis pas sûre que qui que ce soit pour le crime d'honneur. Il y a un côté... c'est le châtiment obligatoire qui fait suite, en fait, à la faute. Mais je ne pense pas que des gens se disent « Oui, nous, on est en faveur de ça. » Je pense que je suis pas sûre que qui que ce soit ait envie au fond de lui-même de tuer sa sœur ou quelque chose, ou de tuer sa fille, quelque chose comme ça. Je pense que c'est beaucoup plus beaucoup plus insidieux que ça. En fait, c'est tout un phénomène social, tout un mécanisme qui, à mon avis, est très, très lourd, qui conduit, en fait, à ça.
En exergue, vous écrivez aux femmes de l'Euphrate, Mariam, Shadia, Alia, à Tiktoum et Fatma, qui ne savent pas encore que leur liberté a une fin.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est terrible.
Vous parlez de la dernière partie?
Oui.
Alors, Tiktoum et Fatma, c'est deux petites filles que j'aime énormément, que je suis dans le cadre d'un projet photographique et qui ont cet appétit de vivre et cette espèce de fin de vie, de fin FIM, hein, attention, et qui ont un côté très très libre et que je trouve absolument, absolument fabuleuse, mais qui vivent dans une région de l'Irak où le passage de la puberté va probablement changer des choses.
Est-ce que vous êtes accablée parfois ?
Accablée ? Non, c'est pas à moi d'être accablée. Moi, je suis pas accablée. Je peux être empathique, je peux être
en colère.
Oui, parfois, ça peut m'arriver d'être en colère, mais ça m'arrive aussi d'être en colère en Europe ou d'être en colère quand je lis, quand je passe devant une maison de la presse et que je vois les couvertures des magazines féminins, parce que je vais faire un parallèle, qui n'en est pas un d'ailleurs, mais le principe de dire, de contrôler en fait le corps des femmes, mais que ce soit des injonctions du type sois vierge, ou alors voile-toi, ou alors dévoile-toi, ou alors épile-toi, ou pense bien à faire ton régime avant l'été. Au final, est-ce qu'on n'a pas quelque part un espèce de même mécanisme très très loin au fond qui consiste à dire mais le corps des femmes, il leur appartient pas vraiment? Et alors évidemment qu'il y a des nuances, évidemment que c'est pas du tout la même, évidemment qu'il y a un monde entre un crime d'honneur et l'épilation. Mais est-ce qu'au final, il n'y a pas cette idée de dire, eh ben, le corps des femmes, quand même, hein, il ne leur appartient pas vraiment. Et si c'est pas à ce niveau-là qu'on va essayer de le contrôler, ben, ça sera à un autre niveau.
Clairement, être femme en Europe et femme au Proche-Orient, Moyen-Orient, ce n'est pas la même chose.
Ah non, ce n'est pas la même chose.
Est-ce que ça a changé votre conception de ce que c'est une femme?
Oui, ça a changé beaucoup de choses. Ça change le regard sur, mais pas seulement sur qu'est-ce que c'est être une femme, mais sur énormément de choses. Quoi. C'est comprendre, ou en tout cas essayer de comprendre et essayer d'assimiler d'autres normes sociales qui ne sont pas forcément celles qu'on connaissait au départ. Enfin, c'est extrêmement intéressant parce que ça permet aussi d'ouvrir son champ.
Et de partager.
Et de partager.
Par la littérature qui, par principe, n'a pas de frontières. Merci voilà. Beaucoup, Emilienne Malfatto.
Merci beaucoup.
Je rappelle que vous êtes l'auteur de « Que sur toi se lamente le tigre » qui a paru aux éditions Elisade, déjà lauréat de deux prix, le prix Goncourt du premier roman et le prix hors concours des lycéens. Merci encore.
Merci beaucoup.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site rfi.fr en cliquant sur l'onglet Podcast. Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.